C'était des amis de circonstance, des alliés d'intérêt, des prétentieux ravis de se faire valoir, comme le dû. L'arrogant de la baie qui empestait l'air avec un nouveau moteur diesel au cul de sa chaloupe. Ou Biard, le patron d'un trois-mâts goélette qui s'amusait à chahuter les sardiniers dans son sillage. Mais que pouvait-il leur dire ? On cache un évadé à bord de la Sainte-Sophie et son mousse nous fait chanter ? Impensable. Ils avaient alors décidé que Lynn Mével porterait seul le fardeau. Pour lancer leur collecte, ils avaient menti et lui avaient brodé une terrible légende. La mère de Sophie buvait sec et parlait aux esprits. Toute sa vie, elle avait consulté des cartomanciennes en secret, des diseuses de bonne aventure, des rebouteuses. Elle avait interrogé toutes les voyantes de l'île. On l'avait vue danser sur la tombe de Naya, la sorcière de Rochefort, aperçue aussi en train de psalmodier dans une assemblée druidique. Elle avait appris à lire dans les feuilles de thym le marc de café, à jeter le mauvais sort et à se protéger des envoûtements. Des charlatans lui avaient fait croire que Ronan et son bateau étaient prisonniers d'un charme, que sa pauvre fille avait été pervertie par un korrigan de dolmen au cours d'un rite secret. Lise Mével avait même obtenu de Merlin qu'il signe un pacte funèbre avec l'Ankou pour que le chartier de la mort l'oublie dans ses tournées. Tout cela n'était qu'escroquerie et poudre aux yeux. Mais la vieille y avait cru. Pire encore, elle avait beaucoup payé pour ses sottises. Elle était couverte de dettes et devait même de l'argent à un sorcier de Locmaria. Après sa mort, elle n'avait rien laissé à ses proches, ni à la paroisse, rien non plus à la commune. C'est pour cela qu'elle avait été enterrée comme une pauvresse et que ses enfants s'étaient disputés le jour de l'enterrement. Son fils pestait contre son égoïsme. Sa fille la trouvait bouleversante de naïveté. Maintenant, Sophie et Ronan devaient rembourser ses jeteurs de sorts. Pour protéger la réputation de la vieille, sauvegarder sa mémoire, pour que le ridicule ne retombe pas sur la région tout entière. Voilà ce que les deux compères étaient allés répéter aux pigeons. Alain sourit. Pauvre Lynn, quand même. En quelques anecdotes, ils avaient fait de cette catholique exemplaire et ennemie mortelle du folklore brésou, comme elle l'appelait, un détestable démon de sabbat. La tromperie était énorme. Elle avait marché. Et tous les gobeurs avaient payé. Chapitre 12. La chasse à l'enfant. Alain est entré dans le salon, un petit homme dans ses pas.
« Jules, tu te souviens de monsieur ?»«
Je me souvenais, oui. » Le poète, attablé aux frères, on l'avait pris pour un policier. Alain et lui s'étaient revus trois fois. Le rameur était en confiance, tellement qu'il lui avait parlé de moi. Je l'ai compris dès que l'inconnu est entré. Il a serré la main de Ronan et celle de Sophie sans même les regarder. C'est moi qui le dévorais des yeux. Il a enlevé son chapeau et m'a offert un sourire triste, cigarette fichée entre ses lèvres. Je connaissais ce rictus, celui des dames patronesses, les dimanches silencieux, qui regardaient passer les colons dans la rue. Le poète savait qui j'étais. Alain m'avait dénoncé, j'en ai eu la certitude. J'étais assis à la table, je me suis levé doucement, sans quitter des yeux le poète. Le rameur s'est avancé. « Attends, le mousse, je t'explique. »«
Tu m'expliques quoi ?»
Le Parisien venait lentement vers moi. Il était en train de grignoter mon espace. Il a interrogé Alain du regard. « Je peux lui expliquer moi-même, si vous préférez. » Une voix basse et grave. « M'expliquer quoi ?» Il s'est arrêté à un mètre de moi, main tendue. Je n'ai pas prise. L'homme a penché la tête sur le côté en souriant. « Rassurez-vous, jeune homme, je ne vous demande pas votre main. » Il s'est incliné. Mais la serrer me serait agréable. Un accent parisien, légèrement voilé, essoufflé, rugueux de vin et de tabac. Je n'ai pas bougé, j'étais transi. Sophie m'a pris le bras.